Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. La société qui l'a fondée est à présent un des leaders mondiaux dans l'industrie de l'orthopédie. La société, c'est Amplitude et son président s'appelle Olivier Jalabert. Et si sa société a pu se développer, c'est en partie grâce à l'accompagnement de la banque LCL. Laurent Fromageau, directeur général adjoint en charge du développement retail de LCL, et Estelle Ménard, directrice des investissements LCL, sont sur le plateau de Check-up Santé. En présence d'un arrêt cardio-respiratoire, l'urgentiste utilise en général une ventilation manuelle plus ou moins précise. La société Archeon, multiprimée, a créé le premier dispositif intelligent de mesure de ventilation manuelle. Déjà présente dans une quinzaine de pays, elle vient d'avoir l'accréditation de la FDA. Son fondateur, Pierre-Édouard Saillard, est avec nous. Sans oublier la chronique de Renaud Degas, patron de la veille des acteurs de santé. Check-up Santé, c'est parti. Estelle Ménard, bonjour.
Bonjour Fabien.
Olivier Jalabert, bonjour.
Bonjour Fabien.
Laurent Fromageau, bonjour.
Bonjour.
Alors Laurent, vous êtes déjà venu dans l'émission.
Et oui,
vous avez la carte orange Check-up Santé.
Oui, avec grand plaisir.
Alors vous êtes au comité directeur de LCL, vous êtes donc en charge du développement retail chez LCL. Oui. Depuis un bout de temps chez LCL, hein.
Ça fait 7 ans.
Et d'ailleurs, vous avez un petit peu, vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle il y a très longtemps déjà.
Ah oui,
près de 30 ans.
Ah oui, mais c'était une intelligence artificielle du siècle dernier. Donc
ouais, mais intelligence artificielle quand même.
Oui, effectivement. J'avais démarré chez Bull dans leur cellule de recherche en intelligence artificielle. Bon, le seul avantage aujourd'hui, c'est que ça me permet d'avoir un peu de vocabulaire.
Ouais,
challenger, discuter avec les spécialistes, parce que c'est vrai qu'intégrer l'intelligence artificielle dans nos entreprises, c'est un des défis que nous avons tous, bien évidemment.
Alors donc, vous êtes en charge donc du développement retail.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous gérez plusieurs...
Ah oui, alors ça veut dire que on travaille au sein d'une équipe, le COMEX, le comité exécutif. Et puis j'ai le plaisir d'animer les 12 000 conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. On a 1500 agences.
Donc vous faites les 35 heures par jour?
À peu près. Et puis 6 millions de clients.
6 millions
de clients particuliers, 500 000 quand on rajoute les entreprises, associations, on a 6 500 000 clients. Mmh. Et avec un objectif, c'est être numéro un de la satisfaction client. Voilà, et puis peut-être sans être trop long, deux particularités chez LCL. Notre ADN historique fait qu'on est la banque de ceux qui vivent en ville. Un Français sur 10 qui vit en ville est client chez LCL. Mmh. Et puis on est la banque des entrepreneurs, puisque historiquement, on fêtera nos 160 ans au mois de juillet. C'est un entrepreneur, Henri Germain, qui a créé cette banque pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, il y a une ETI sur deux, une PME sur trois qui est cliente de LCL. Et nous sommes leaders auprès des professions libérales.
C'est ça, donc vous accompagnez et les entreprises, mais aussi et beaucoup
les entrepreneurs libéraux et tous les entrepreneurs, dont la santé,
dont la santé, évidemment,
et les entreprises du secteur de la santé.
Alors Estelle Ménard, vous êtes donc directrice des investissements LCL. Donc vous êtes... Vous et votre équipe, évidemment, hein, vous êtes au contact direct des clients auxquels vous proposez, c'est ça, d'investir ou d'épargner?
Alors mes équipes, ce sont des équipes de gérants, ce sont des gérants qui effectivement vont gérer les actifs des clients qui sont aussi bien dans la banque du particulier que la banque privée ou la gestion de fortune. Donc oui, au contact des clients, ce sont nos réseaux, nos collaborateurs dans les réseaux, mes gérants également qui rencontrent et moi-même de temps en temps nos clients bien entendu et qui essayons de gérer au mieux les actifs qu'ils nous donnent, qu'ils nous confient en gestion.
D'accord, donc vous proposez, vous êtes force de proposition, mais aussi vous êtes parfois sollicité par les clients qui vous posent des questions sur...
Alors on peut être sollicité par le réseau, bien entendu, on est surtout force de proposition et on gère les actifs qui sont donnés en délégation, mandat ou de gestion conseillée. C'est vrai que là, on est force de proposition en termes de gestion conseillée, oui.
Alors Olivier Jalabert, donc vous avez créé, non pas une start-up, c'est plus une start-up là.
C'est plus une start-up.
On va dire,
elle a 25 ans.
Elle a 25 ans.
Voilà, je l'ai créée.
Elle s'appelle Amplitude et donc vous fabriquez des... Des orthèses, c'est ça?
Alors, notre métier, c'est vraiment la conception, la fabrication et la distribution d'implants chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique. Pour parler plus vulgairement, il s'agit de prothèses internes, des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, aussi...
Donc le membre inférieur en particulier.
Pour le membre inférieur, c'est le plus gros du marché, puisque nous sommes des bipèdes marchant sur nos membres inférieurs.
D'accord, donc ça fait effectivement beaucoup de monde.
Ça fait beaucoup de monde.
Et en plus, avec la population qui vieillit, donc il y a plus de problèmes articulaires. C'est pas seulement donc la fabrication d'orthèses, mais c'est aussi comment les utiliser. En fait, vous guidez les chirurgiens pour mieux intervenir.
Tout à fait, parce que quand on fabrique et qu'on conçoit des prothèses de hanches et de genoux, on fournit également l'instrumentation, c'est-à-dire une grosse centaine d'instruments bien spécifiques pour préparer l'os, pour être capable de mettre la prothèse dans le genou, par exemple, ou la hanche, de manière la plus précise possible. La précision d'implantation est vraiment fondamentale pour la survie de l'implant et la satisfaction du malade.
Alors, c'est Cocorico quand même, une boîte française qui est un des leaders mondiaux dans votre domaine. Vous êtes présent dans quelques pays.
Merci, oui. On est. Alors, comme je vous disais, je suis le fondateur de cette entreprise il y a 25 ans. On a maintenant un peu environ 500 salariés. Mm-hmm. On fait un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une très belle croissance. Certes, on a été un peu affecté.
Oui, la production est en France.
La production est à Valence en France, oui. C'est quasiment 100% de la production est à Valence en France.
D'accord, donc vous avez dit 500 collaborateurs.
500 collaborateurs et pas loin d'une quarantaine de pays où on vend nos prothèses fabriquées en France.
Laurent Fromageau, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à une société comme celle-ci?
Parce que c'est notre responsabilité sociétale d'accompagner des entreprises en France et des belles entreprises. Donc je vous l'ai dit, nous dans notre ADN, une ETI sur deux est client de chez nous. Donc on s'organise, on veut être le partenaire de la croissance, le partenaire de la transformation, des transitions aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de transitions à gérer. Pour cela, nous avons d'ailleurs des banquiers conseils par secteur. Le secteur de la santé, évidemment, vous l'avez dit, c'est un secteur stratégique. C'est un secteur qui représente 2 millions d'emplois en France, qui contribue à la balance commerciale aussi. Et on sait que c'est aussi un secteur stratégique. Et notre rôle, c'est de vous accompagner dans la durée. Alors ça va de la start-up. On n'est pas un fonds d'investissement en capital risque, hein, mm-hmm. Mais la start-up, il y a Netri là qui a gagné le trophée, qui a été primé le 19 avril. On a la chance de les avoir clients chez nous. Ils sont clients à Lyon, hein, que ce soit Thibaut et Florian, les deux dirigeants à la tête de cette entreprise. Et ensuite, c'est de les accompagner dans le temps pour les faire grandir, là, comme vient de nous le dire Olivier. Voilà, les accompagner dans leurs investissements de recherche, dans leurs investissements pour se développer à l'international. Et puis pour lever des capitaux, pourquoi pas pour s'introduire en bourse. Et donc d'apporter toutes ces expertises tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis, un peu plus tard d'ailleurs, on peut les accompagner dans la cession, la transmission. C'est notre job, c'est notre raison d'être. Et comme je vous l'ai dit, on essaie de le faire chaque jour. Pour être numéro un de la satisfaction client.
Comment s'est fait justement cet accompagnement? Cet accompagnement de LCL, il n'a pas démarré au départ, pas en 2008.
Non, il n'a pas démarré lorsque j'ai créé l'entreprise.
En 98.
Oui. Il a démarré un petit peu plus tard, mais je dirais que l'entreprise a commencé à travailler avec LCL en 2009. Depuis 2009, l'entreprise a été complètement métamorphosée, donc je dirais que les besoins en termes de financement ont changé au fil du temps. LCL a su nous accompagner lors de l'introduction en bourse, lors de nos développements de projets, puisque j'ai 50 ingénieurs dédié à la R&D à Valence. On a actuellement un énorme projet d'une nouvelle usine à Valence d'environ 5000 m² qui est financé par le LCL. Vous voyez, donc on a un éventail assez large de besoins et je dois dire que le LCL nous accompagne positivement dans toute cette phase. Et actuellement, on a un énorme projet de robot, puisque c'est un gros projet de R&D, mais on en parle un peu plus tard.
On va en parler juste après. Estelle Ménard, donc la santé, ça représente quand même pas mal de... C'est un domaine assez important pour vous, non ou pas?
C'est un beau secteur. C'est un secteur très intéressant aujourd'hui, dans le cadre de la gestion de nos mandats ou de l'offre de gestion conseillée. C'est un secteur sur lequel on investit, sur lequel on conseille nos clients. C'est un secteur qui, dans l'environnement de marché actuel, alors là, je sors un peu de cet environnement de santé, mais dans l'environnement de marché actuel, c'est un secteur défensif, donc qui a beaucoup d'intérêt quand on est dans un environnement très incertain. C'est un secteur où la valorisation est également intéressante. Et c'est un secteur, et vous le disiez tout à l'heure avec Amplitude, où on a des perspectives de croissance qui sont étonnamment soutenues et qui nous intéressent énormément.
Donc, oui, c'est pas un secteur à risque, trop à risque.
Comme tous les secteurs, il y a des risques, mais effectivement, dans un environnement de marché compliqué, c'est un secteur défensif sur lequel on peut investir avec un peu moins de risque, effectivement. Une prise de risque
minimum. Avec parfois entrer dans le capital des sociétés ou
Alors, entrer dans le capital des sociétés, non, là, ce sera un petit peu tôt. En revanche, accompagner Amplitude, par exemple, une fois qu'elle se sera bien développée et que son flottant, justement, puisque c'est une société cotée, sera plus intéressant, c'est une chose que nous pouvons faire, nous, en investissant sur des sociétés cotées ou en conseillant à nos clients d'investir sur certains titres également.
D'accord. Donc, là aussi, donc, quand vous avez accompagné le Amplitude, c'était sans entrer dans le capital.
Oui, bien entendu, oui. Mais nous... ce qu'on cherche à faire, c'est à être utile à la société. Donc nous, on est dans l'économie réelle.
Enfin, vous êtes quand même des banquiers.
On est des banquiers, mais le rôle d'un banquier, c'est notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner nos clients, tous nos clients. On est une banque universelle. Et vraiment, notre vocation, c'est d'être utile à chacun de nos clients et d'être utile à la société dans son ensemble. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'investit auprès d'entrepreneurs et d'entreprises comme Amplitude, bien évidemment. Mm-hmm. En faisant notre métier, on crée de la valeur pour l'entreprise, pour ses clients et pour la banque. Et puis, on accompagne aussi les entrepreneurs, les plus petits entrepreneurs, les entrepreneurs libéraux. Et nous pensons chez nous, parce que ça fait partie de notre projet sociétal, d'être utile à tout l'écosystème de santé. On sait, mm-hmm. c'est quelque chose de très important, c'est partie du bien commun, le système de santé. Et on voit que l'ensemble des acteurs peuvent nous permettre d'agir ensemble, en local, en France, à Valence, sur le terrain. Et ça nous mobilise et ça nous motive.
Alors Estelle, dans vos investissements, évidemment, on compte beaucoup maintenant sur le dérèglement climatique, sur la RSE, sur les produits verts.
Bien sûr.
On va dans ce sens, obligatoirement.
On va totalement dans ce sens. Aujourd'hui, on a plus de 2/3 des Français qui veulent donner du sens à leur investissement. Donc, mm-hmm. c'est important de répondre avec une offre adaptée, justement, à leur recherche. Pour cela, on a effectivement une gamme qui se développe en ce sens, notamment une gamme LCL Impact. LCL Impact mm-hmm. dans laquelle, notamment LCL Impact Social et Solidaire, dans laquelle on retrouve des produits actions, des produits taux, des produits diversifiés. On retrouve également des fonds de partage. Et plus récemment, depuis mars 2023, donc mars de cette année, un social bond qui s'appelle LCL Impact Social et qui permet justement d'aider certaines entreprises à se financer, d'accompagner quelques organisations à but non lucratif. Mm-hmm. Et si je peux donner un exemple justement qui nous tient tous à cœur, et certainement vous le connaissez, on finance une 13e clinique, la clinique de soins études de la Fondation Santé des étudiants de France, qui se trouve à Vitry-le-François, dans la Marne. Donc c'est une très belle clinique, et en plus c'est un projet bas carbone. Donc voilà à quoi servent justement les investissements de nos clients, notamment à travers ce social bond.
Du mécénat aussi.
Alors du mécénat également, nous avons du mécénat. Le mécénat est plus, il s'agit plutôt de dons. Les dons que l'on a, il s'agit principalement de l'Institut Pasteur à Lille, sur lequel nous avons souhaité soutenir la recherche de la prévention sur le bien vieillir, en finançant notamment un programme de développement sur le parcours longévité, avec un don de 500 000 euros. Je me tourne vers... mais je pense que je ne me suis pas trompée sur les montants. Et ça, c'est un don en 2021, principalement. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle l'arrondi carte bancaire. Cet arrondi carte bancaire, le système épargne, où les clients de LCL peuvent arrondir lorsqu'ils payent par carte bancaire le montant qu'ils souhaitent payer. Et là, c'est un mécénat qui va directement vers la chirurgie cardiaque, donc le mécénat chirurgie cardiaque.
Ça m'intéresse au plus haut niveau.
Je l'imagine.
Olivier Jalabert, donc on a compris, vous faites des implants, dans le même affaire. Si on regarde un petit peu le futur, dans quoi, quels sont vos projets, très rapidement?
Comme je le disais tout à l'heure, on a un énorme projet, on a maintenant l'argent pour le faire. C'est un projet de robot en association exclusive avec une autre entreprise de la région Rhône-Alpes qui s'appelle Essential Robotics. Ce partenariat exclusif dans le développement d'un robot, il est essentiel pour l'entreprise. Et je pense que d'ici quelques mois, nous serons capables de fournir aux chirurgiens un robot pour être beaucoup plus précis et ainsi améliorer la qualité des malades, la qualité de soins des malades.
Laurent Fromageau, un dernier mot, très rapide. Donc, vous avez 5 secondes.
5 secondes. Bah, nous, on est très fiers d'accompagner les entrepreneurs de la santé. Voilà, nous, on veut être une banque positive. Et peut-être dernière information, l'épargne que vous nous confiez, eh bien, nous visons en 2025 à ce qu'un euro sur deux de crédit octroyé aux entreprises soit pour des projets à impact positif. C'était 1 € sur 4 fin 2022, 1 € sur 2 en 2023, parce que nous, on veut un avenir prometteur pour tous et désiré. Et en tout cas, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Et c'est notre raison d'être. Voilà, donc merci d'être client chez nous. Et merci à tous de venir nous rencontrer.
Merci pour votre présence. Voilà, on va accueillir à présent Renaud Degas, qui est le patron de La Veille Acteur Santé.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Renaud Degas, bonjour.
Bonjour Fabien.
Merci de venir une fois de plus sur le plateau.
Merci d'accueillir.
Vous êtes une des personnalités les plus écoutées dans le monde de la santé. Vous dirigez donc La Veille Acteur de Santé. On parle de choses positives en général sur BFM. Là, c'est peut-être un petit peu moins moins positif.
J'en suis désolé.
Ouais, et surtout non, ça m'intéresse parce que
c'est pas forcément négatif d'ailleurs, je pense, mais bon.
On espère. Parce que c'est vrai que la pratique de la médecine sera plus comme elle était comme même je l'ai pratiquée moi il y a quelques années.
Oui, alors je suis pas médecin, donc je vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Par contre, ce qu'on observe depuis plusieurs mois, bien c'est que les discussions, les négociations, les échanges sur la médecine de ville sont plutôt tendus, pour le moins, et on ne sait pas trop où on va, en fait, c'est ça le problème.
En fait, sur trois aspects particuliers, hein, trois axes importants. Le premier, c'est le problème d'accès aux soins.
Alors, le problème d'accès aux soins, vous savez qu'il y a les rapports se multiplient pour dire qu'il y a à peu près 87% du territoire est un désert médical. Alors bon, les chiffres, il faut toujours les regarder de près. Bon, c'est du global, mais surtout
dont Paris pour les médecins
généralistes. Dont la banlieue proche, etc. Mm-hmm. C'est un vrai problème. Et comme vous le dites, effectivement, ça se rapproche des villes, donc on commence à vraiment en avoir conscience. Mais ça fait longtemps que certains territoires sont un peu désertés. Ouais. Et surtout, il y a aujourd'hui 1,6 million de Français qui renoncent aux soins, et pas que pour des raisons financières, parce qu'il y a la sécurité sociale, donc il y a un problème d'accès. Et puis, 11% des Français de plus de 17 ans qui n'ont pas de médecin traitant. Et paradoxalement, à côté de ça, vous avez, je crois, 50%, je regarde le rapport, 45% des médecins généralistes qui sont en situation de burn-out. Mm-hmm. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Hein, c'est pas du tout qu'ils se reposent sur leur laurier, qu'ils sont complètement débordés.
Ils font plus de visites à domicile, ils prennent plus de nouveaux patients la plupart. Voilà. C'est assez problématique.
La situation, elle est connue et analysée par tous comme ça. Je veux dire, ça, pour le coup, je crois que ça fait consensus.
Mais ce qu'il y a à l'inverse du consensus, c'est les solutions.
Bah oui, on a vu, hein, tout le monde a vu l'échec des négociations des médecins il y a peu. Vous avez reçu il y a peu de temps l'un de ces acteurs. Les sages-femmes aussi, la négociation n'est pas allée au bout. Les kinés, pareil. Les négociations avec l'assurance maladie. Donc on voit qu'il y a un blocage de plus en plus fort.
Les généralistes ont obtenu une augmentation très très généreuse de 1,50€.
Oui, je pense que là, on est au début de la solution, il me semble. Oui. Et donc on voit aussi fleurir les propositions de loi. La proposition de loi RIST qui a ouvert de l'accès direct à côté des médecins. Bientôt, là, le 12 juin, commencent les discussions autour de la proposition de loi de M. Valletoux, qui là essaie d'organiser la coordination sur les territoires.
Territorial.
Ouais. Et puis, on attend les résultats du CNR Santé. Qui doit être présenté a priori avant l'été, mais on attend pour l'instant.
Alors, conclusion.
Conclusion.
Constat est plutôt
aujourd'hui. Non, c'est sombre, en tout cas pour le système actuel. Mmh. On a comme l'impression qu'on vit la fin d'un système qui est installé depuis 45, depuis l'après-guerre, qui s'est développé tranquillement, etc.
Et là, personne n'est gagnant dans ce
système. Personne n'est gagnant. Il y a un choc à la fois financier, mais surtout la base qui déclenche tout aujourd'hui, c'est le problème démographique, avec un départ des médecins du baby-boom, et puis, mais aussi en même temps qu'eux, il y a la population qui a vieilli et qui augmente et qui a de plus en plus besoin de soins. Donc là, c'est le nœud du problème. Et le problème, c'est qu'on bloque sur une évolution concrète du système.
Par exemple, les délégations de tâches.
Il y a un fort conflit autour des délégations de tâches. Mm-hmm. Et quand on écoute bien les discussions, les uns et les autres ne parlent pas de la même chose. Mais le résultat, c'est que ça crée de la dissension entre les professeurs de santé de ville et que c'est pas la bonne manière d'avancer a priori. Donc, qu'ils trouvent absolument le moyen de discuter et de parler entre eux. Et aussi, on voit bien qu'il y a un blocage dans le dialogue entre les médecins, les autres professionnels de santé, l'assurance maladie et le gouvernement. Le dialogue passe plus. Ouais. Et donc, où va-t-on aujourd'hui? Eh bien, la question qui se pose, s'ils ne trouvent pas vite une solution, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que l'adage, les Français votent avec leurs pieds, eh bien, ils vont soigner comme ils peuvent. Et aujourd'hui, vous recevez ces acteurs-là toutes les semaines. Il y a des plateformes type Care, type Deuxième Avis, type Livy. Vous avez aussi de plus en plus de sociétés qui s'installent sur le territoire pour la coordination des soins, parce qu'on sait que c'est un grand problème en sortie d'hôpital. On a un développement des centres de santé parfois anarchiques, mais il faut bien dire aussi qu'ils répondent à un besoin. Et c'est ça le problème. C'est que on voit bien que d'un côté l'ancien système de santé se crispe, mais s'ils ne trouvent pas vite de solution, des solutions, on va en trouver. Et pour eux, sans eux,
la solution, c'est Renaud Degas, ministre de la Santé.
Non, merci. C'est vous, Fabien.
merci beaucoup, Renaud Degas. On va à présent accueillir Pierre-Édouard Saillard, qui est fondateur de Arkéon.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Pierre-Édouard Saillard, bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir de Besançon sur le plateau de Check-up Santé. Vous avez cofondé la société Arkéon en 2018.
Exactement.
Donc, jeune pour un succès phénoménal.
C'est une jeune société, oui, on a 5 ans et demi d'existence.
Ouais, et déjà multiprimé, quoi.
Et multiprimé, on a 14 prix à peu près.
Lauréat French Tech, meilleur DM des CADUC, trophée innovation 2019, prix coup de cœur Snitem, Janus de la Santé. Non, mais c'est.
Énorme. On a eu la chance de gagner beaucoup de prix.
Ouais.
C'est aussi
vous
en fait.
À chaque fois, donc vous envoyez un chèque à chaque fois, donc pour.
Non, malheureusement, non. Ouais. Non, on a la chance de gagner beaucoup de prix puisqu'en fait, on est vraiment sur une innovation de rupture qui transforme en fait la réanimation cardiaque. Parce que depuis des années, en fait, on parle de réanimation cardio-pulmonaire, mais on ne s'est intéressé qu'à la partie cardiaque, ce qui est le massage cardiaque, la défibrillation. Ouais. Mais en fait,
on a laissé de côté, à un moment donné, la ventilation.
Exactement, hein. On a abandonné la ventilation, la réanimation vraiment pulmonaire. et en fait, on a besoin de deux choses pour vivre, que le sang circule, mais aussi que le sang soit oxygéné.
Et que l'air arrive,
le cerveau, oxygéner les muscles.
Mais juste avant, donc, vous vous êtes installé à Besançon. Oui. La Franche-Comté, Besançon, ça, c'est une région finalement qui est dynamique, non, dans le domaine de la santé, oui.
C'est une région très dynamique dans le domaine de la santé. Il y a un riche passé horloger qui fait que dans le domaine de la microtechnie, on a beaucoup de compétences. Mmh. Et du coup, ces compétences horlogères se sont transformées au domaine médical.
Alors, donc vous avez fabriqué un appareil, donc vous avez utilisé, j'imagine, l'intelligence artificielle.
Exactement, on a créé donc EOLife, qui est un dispositif qui permet de faire ce que nous on appelle de la ventilation de haute performance, puisqu'en fait ça va vraiment guider le secouriste dans sa ventilation. Donc on a développé des algorithmes.
En lui donnant évidemment des algorithmes d'intelligence artificielle.
On a développé des algorithmes en fait extrêmement avancés qui sont capables d'analyser en fait les caractéristiques pulmonaires du patient, pour être capable en fait de dire au secouriste s'il envoyait la bonne quantité d'oxygène à son patient,
c'est les paramètres que va nous donner l'appareil.
C'est ça.
Quels sont ces paramètres?
Donc en fait, il y a le volume d'air qu'on a envoyé au patient, le VI, et il y a le volume d'air qui est réellement arrivé dans les poumons du patient, parce qu'on parle de ventilation manuelle qui est faite avec juste un masque posé sur le visage du patient. Donc il peut y avoir des fuites, on peut envoyer de l'air dans l'estomac. Et donc en fait, on a besoin de savoir quelle est la quantité
exacte. Le masque peut être mal positionné aussi.
Le masque peut être mal positionné. C'est un des principaux challenges en fait dans la ventilation manuelle. Mm-hmm. C'est le management des fuites, c'est le positionnement du masque, vérifier si on n'envoie pas d'air dans l'estomac, etc.
J'imagine que les études cliniques que vous avez faites et que vous êtes en train de faire montrent une énorme différence avec la ventilation manuelle non assistée.
On a 6 études cliniques en cours. Mm-hmm. On a une étude clinique qui est en cours avec les pompiers de Paris. On a 5 études cliniques en cours aux États-Unis là qui vont démarrer très prochainement. Et il y a surtout en fait une très grosse étude clinique qui a été faite à Dallas il y a 2 ans par le professeur Ahmed Idriss en fait qui montre que une bonne ventilation en fait dans l'arrêt cardiaque double la survie. Ils sont passés en fait d'un taux de survie d'à peu près 5-6% à un taux de survie de 11% dans l'arrêt cardiaque préhospitalier, ce qui en fait c'est une augmentation majeure en fait dans l'arrêt cardiaque.
Alors, vous, évidemment, vous diffusez votre appareil, mais vous avez aussi un appareil pour la formation?
On a un appareil pour la formation, EOLife X. Mm-hmm. Donc, EOLife, qui est l'appareil médical, on le commercialise depuis 2 ans et demi. EOLife X, depuis 1 an et demi, à peu près. Et en fait, cet appareil, lui, est destiné à tous les centres de formation, les centres en France, ça va être les centres CESU, les centres infirmiers de formation, pour former, en fait, déjà à la bonne ventilation manuelle, avant qu'ils se retrouvent, en fait, sur le terrain, avec des vrais patients.
D'accord, donc ça s'appelle EOLife, alors, dans les
pays anglais. C'est
EOLife, d'accord. Donc vous diffusez dans quelques pays, déjà?
On diffuse dans une quinzaine de pays, principalement en Europe, et là, on vient d'avoir les autorisations de la FDA.
Ça, c'est le Graal.
C'est le Graal pour nous, puisqu'en fait, le marché américain, c'est 40% du marché mondial.
Ouais. Donc, Food and Drug Administration.
Exactement. Mm-hmm. Et c'est vraiment un enjeu majeur pour nous, en fait, de développement de la société. On a déjà fait des très bons retours des États-Unis. Ça fait un an qu'on est déjà sur le marché, sur la partie formation. Mm-hmm. Et il y avait une réelle attente, en fait, sur la partie médicale. Et ça se concrétise, en fait, avec toutes ces études cliniques qui sont en train de démarrer. Et on a une forte demande sur le marché américain pour monitorer la ventilation manuelle.
D'accord, donc vous êtes installé à Besançon. Vous fabriquez, votre production, c'est la France?
Le produit est totalement fabriqué en France. Mm-hmm. Donc, soit sur Besançon, soit dans le nord de la France.
Vous allez pouvoir assurer ce succès, toutes ces commandes qui vont affluer, non?
On est en train d'adapter un petit peu nos chaînes de fabrication. Mm-hmm. Et on est en train aussi de structurer, on va dire, notre réseau sur les États-Unis pour accélérer, on va dire, les ventes très rapidement.
Donc j'imagine que vous avez démarré avec des levées de fonds ou
comment on a réalisé notre toute première levée de fonds il y a seulement 1 an. Sur le début de la création de la société, on a été beaucoup financé en fait grâce à tous les concours qu'on a pu gagner ici, que ce soit de BPI, que ce soit aussi on a gagné beaucoup de prix à l'innovation au niveau européen. Donc on a des subventions européennes. Et il y a un an à peu près, on a réalisé une levée de fonds de 5,5 millions. Donc avec deux fonds d'investissement et des fonds publics également.
Donc on a parlé des études cliniques, on va parler de votre futur.
Le futur d'Archéon, oui, on a beaucoup de projets qui sont en cours de développement.
Le futur est déjà là, non? Ou
le futur est presque là. Ouais. Il y a déjà la poursuite en fait de l'amélioration de notre produit, parce que pour l'instant c'est un produit destiné uniquement à l'adulte. On travaille sur la version pédiatrique également, et on travaille aussi sur le ventilateur du futur, puisqu'en fait nous on développons des produits uniquement dans la médecine d'urgence, et on a vraiment pour objectif de devenir le leader de la ventilation en médecine d'urgence. Et on travaille sur un ventilateur autonome, donc vraiment basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre en fait de simplifier énormément en fait la ventilation mécanique. Là, cette fois-ci, on parle de ventilation mécanique et plus de ventilation manuelle, qui est en fait une ventilation extrêmement complexe à faire un ventilateur. Il y a énormément de paramètres à régler dessus. Il faut être un médecin réanimateur, un médecin expert pour régler un ventilateur. Et notre objectif, nous, c'est vraiment de simplifier cette ventilation pour le rendre beaucoup plus accessible.
Enfin, tout urgentiste devrait avoir avec lui le YoLife.
C'est ça, puisqu'en fait, pour rebondir sur le sujet précédent, on parle beaucoup de désertification médicale. Mais en fait, c'est vraiment un enjeu de santé majeur. Parce que, à l'heure actuelle, par exemple, un SDIS, un département en fait qui est équipé avec EOLIFE, les patients en fait qui font un arrêt cardiaque dans un département avec qui est équipé avec EOLIFE ont deux fois plus de chances de survivre à un arrêt cardiaque que le département voisin qui n'est pas équipé.
Oui, c'est énorme.
Donc c'est énorme, et il y a de moins en moins d'équipes spécialisées de SAMU, de SMUR qui se déplacent en intervention. Donc les premiers intervenants sont les pompiers, et il y a vraiment un enjeu à équiper tous les pompiers pour que la.
Vous avez diffusé combien de EOLIFE jusqu'à présent?
À l'heure actuelle, il y a à peu près 1000 produits qui ont été vendus.
Ouais.
Il y a 2600 patients qui ont pu être traités avec EOLIFE depuis sa commercialisation à peu près.
Génial, bravo.
Merci
beaucoup. Bravo vraiment pour ce que vous faites. Évidemment, je garde l'EOLIFE. Vous l'avez mis chez BFM, hein, c'est trop
avec
tard.
Avec plaisir.
Reprendre ses volets. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.